Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Excellente soirée avec le club sang et or. On va revenir sur la bonne période de Rodez, la période de faste, puisque Rodez ne prend plus de but depuis maintenant 3 matchs. Ça devient une petite habitude, l'occasion d'en parler sans Jean-Charles Virlogeux, qui est malheureusement pas avec nous en ce mardi soir. Mais avec notre invité Yanis Verdier, buteur lors du dernier match de Rodez avec la victoire contre Valenciennes. Bonsoir Yanis.
Bonsoir.
On va commencer par ce qui a été forcément un élément marquant pour vous dans ce match. C'est votre premier but en Ligue 2. On a vu beaucoup de joie. Joie qui signifie quoi finalement?
De la fierté surtout, je pense. Ouais, beaucoup de fierté.
On vous a vu en tout cas très heureux, très content de célébrer ce but. On sentait même une forme de délivrance.
C'est vrai.
C'est ça?
Ouais.
On peut dire que finalement, grâce à ce but, vous pouvez entrevoir l'avenir plutôt sereinement, quoi, c'est ça?
Peut-être pas sereinement, mais mieux en tout cas.
Ok. Bon, on sentait en tout cas avant ce premier but en Ligue 2 qu'au vu de vos entrées précédentes, et notamment à Bastia, où vous n'aviez pas été si loin que ça de marquer, c'était pas très loin, quoi, ce but. Vous l'attendiez aussi?
C'est vrai. Ouais, je l'attendais quand même.
C'est un déclic?
Ouais, un déclic, ouais. Ça va m'aider à avancer, je pense.
Ouais?
Ouais.
Bon, en tant qu'attaquant, c'est sûr que c'est mieux de marcher avec de la confiance, et notamment avec ce but-là. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, puisque vous êtes un des joueurs qui a le meilleur ratio temps de jeu but en Ligue 2. En même temps, parce que vous avez eu des bouts de match, en fin de match essentiellement, et que vous avez ouvert donc votre compteur but ce week-end. Didier Santini, c'est votre coach, et il était évidemment très heureux pour vous à l'issue de la rencontre. Écoutez-le.
Je suis très très content pour lui, parce que déjà, à un moment, on a eu des idées de le prêter, de la trêve, tout ça. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, faut que tu restes, même si tu ne joues pas. Pendant les 4-5 prochains mois, tu vas apprendre, tu vas travailler. Kylian, à ton âge, il n'avait pas fait un match encore en Ligue 2. Et surtout, tu vas apprendre et tu auras gagné 6 mois de plus en restant. Donc, il a super bien bossé. Il y a des moments, c'était difficile. Mais ces derniers temps, il bosse bien. Et il méritait aujourd'hui d'être dans le groupe parce que sa rentrée à Bastia, ses entraînements sont bons. Et sa rentrée à Bastia a été superbe. Oui, il s'est écrit aussi 2 superbes occasions. Donc, voilà. Après, il a des qualités. Aujourd'hui, il apprend avec ses partenaires à l'entraînement, à courir, à mettre de l'intensité. Et puis après, il a cette qualité footballeur en salle de toucher de balle, une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, mais qu'il faut qu'il arrive à mettre au service de l'équipe et avec plus de vitesse. Mais il apprend tous les jours et puis fait de très bons entraînements ces derniers temps.
Kylian Corredor, c'est donc 26 matchs depuis le début de la saison, 7 buts, 5 passes décisives. Est-ce que c'est du coup une sorte de modèle, malgré le fait qu'il n'ait que 3 ans de plus que vous?
C'est sûr qu'on peut s'inspirer de Kylian, parce qu'il fait une vraie saison. Donc pourquoi pas un petit modèle.
On rappelle qu'il est très jeune également, Kylian Corredor, mais c'est vrai que vous êtes encore plus jeune que lui, donc forcément, peut-être que ça vous donne des idées derrière la tête de vous inspirer du comportement de Kylian Corredor. Le coach en parlait, il y a eu quelques paroles, discussions, on va dire, autour de votre avenir à l'occasion de cette période de mercato hivernal. Accroche-toi, ça vaut le coup de rester. Et finalement, donc, ce ratio de fou furieux en Ligue 2, 52 minutes de jeu en temps de jeu officiel, 7 rencontres disputées et un but. Franchement, les statistiques, elles sont excellentes.
Ouais, elles sont pas mal, c'est pas mal.
Ça vaut le coup quand même de rester à Rodez pour avoir ces statistiques-là, même si je suppose qu'en tant que joueur, on a envie de jouer plus, on a envie de gratter des minutes et pourquoi pas être titulaire, quoi.
On veut toujours plus, mais on est content. Je suis content, en tout cas, de mon premier but et il faut continuer comme ça.
Ces paroles de Didier Santini, votre coach, qui vous a incité finalement à rester, est-ce que c'est finalement une preuve que dans le football, il n'y a pas que des paroles en l'air, il y a aussi de la confiance qui peut se jouer entre les acteurs?
Bien sûr, ça m'a fait plaisir que le coach vienne me voir et prenne le temps de me parler, de me dire qu'ils veulent que je reste, ça m'a fait plaisir et ça a compté pour moi.
Comment ça se passe dans ces situations-là, quand on est un jeune joueur, quand on arrive de Châteauroux, quand on arrive dans un club de Ligue 2? Est-ce qu'on se dit, c'est le moment de faire mon trou? Est-ce que ça passe par de la confiance? Ça passe par en étant timide au début, mais finalement en s'imposant au fil des semaines?
Je pense que ça passe par du travail, en tout cas. Et au fil du temps, ça marche. Plus on travaille, plus ça marche.
Cette période de mercato hivernal, c'est une période de doute? C'était une période de doute?
À ce moment-là, j'étais un petit peu dans le doute. Après, j'ai commencé à mieux comprendre le style du club et les tactiques du coach. Donc après, c'est venu tout seul.
Au début, c'est pas forcément une stratégie qui collait à votre peau?
Si, je pensais que c'était parfaitement mon style de jeu. Mais comme l'a dit le coach, je pense que j'étais un peu gourmand, je voulais direct jouer, direct être titulaire. Mais après, je me suis posé les bonnes questions et bah, je sais pas, je suis allé dans le bon chemin.
Le fait d'être jeune, est-ce que ça y joue parce qu'on veut tout de suite? Quand on est jeune, on aimerait évidemment participer à toutes les rencontres. Il faut savoir être patient.
C'est sûr, quand t'es jeune, t'as envie de montrer, de jouer tous les matchs. Mais il faut attendre son tour et travailler.
On va revenir sur la rencontre face à Valenciennes et donc la victoire de 2-0 avec votre premier but en Ligue 2. On en a parlé. Bon, en tout cas, c'est un beaucoup de coaching hein, de la part de votre coach, puisque sur cette action, c'est deux joueurs qui sont entrés en jeu qui ont été impliqués. Le joueur prêté par Lorient, Silla, et vous, qui évidemment êtes à la réception de ce centre. Ce but qui est venu sceller finalement le sort d'une rencontre rondement menée par Rodez à l'extérieur. Bastia puis Valenciennes, deux matchs qui se ressemblent un petit peu finalement.
Oui, dans le contenu, on a été solide, on a joué vers l'avant, on a eu la maîtrise du match, donc c'est deux matchs aboutis, je pense.
Est-ce que le fait de jeu du pénalty raté, ce n'est qu'un fait de jeu parmi tant d'autres ?
Oui, c'est qu'un fait de jeu, on n'en a pas tenu compte, bah, pour nous ça ne change rien. Brad, on a confiance en lui, on sait que d'habitude c'est au fond.
Finalement, heureusement que ça arrive sur un match où Rodez est bien embarqué, a le contrôle un petit peu de la situation, parce que sur un match un peu plus tendu, louper un pénalty, c'est quand même un peu dommage.
Bah,
là, ça n'a pas de conséquences.
Non, ça n'a pas de conséquences, mais même dans un match tendu, on aurait su lever la tête, je pense.
En tout cas, ces deux matchs à l'extérieur, Bastia et Valenciennes, ça vient confirmer plusieurs tendances, on va les évoquer. La première, c'est cette bonne nouvelle, la solidité et sérénité défensive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord avec ça. Ça fait trois matchs qu'on fait des clean sheets, donc on est beaucoup mieux défensivement. Je pense que c'est aussi grâce au coach et à Aymeric Darbelay aussi. On a bien travaillé, donc faut qu'on continue comme ça.
Pourquoi, grâce au coach adjoint, pourquoi justement cette petite déclaration à Aymeric Darbelay ?
Non, parce que aussi il est là, il faut le dire aussi qu'il est là pour tout le monde et il est important aussi dans le groupe.
On rappelle les trois clean sheets, c'est contre Dunkerque pour Bastia et Valenciennes. On a encore vu une défense davantage sortir sur le porteur de balle. C'est ce que réclamait votre coach depuis de longues semaines maintenant. Est-ce que c'est une consigne qu'il vous dit au quotidien, finalement ?
J'ai pas compris.
De sortir sur le porteur de balle ?
Ah oui, c'est une consigne de toujours avancer, de pas avoir un bloc bas.
Ouais.
Ouais, c'est important d'avancer sur le porteur.
Est-ce que justement vous sentez que cette défense de Rodez, défense à 3, avec maintenant Sébastien Cibois dans les buts, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes, elle a franchi un cap? Est-ce qu'elle est plus sereine, plus solide, plus costaude et finalement, ça se ressent sur les performances de l'équipe?
Je pense qu'avant ça, c'était juste un détail. À chaque fois qu'on prenait un tir, on prenait un but, mais on défendait bien aussi. Mais je pense qu'on a eu un petit déclic et on a aussi un peu de réussite. On est plus solide.
Est-ce que la réussite, la chance, ça joue là-dedans ?
Non, la chance dans le foot, il n'y en a pas. Et je pense qu'on est juste concentré et on défend bien.
Troisième clean sheet en tout cas d'affilée pour Rodez, on vient de l'évoquer. On pourrait évidemment rappeler que Valenciennes, ce n'est pas une équipe du top 5 de Ligue 2. On rappelle que c'est la troisième pire attaque d'Europe dans les cinq grands championnats professionnels. Mais c'est vrai que cette stat du troisième match sans encaisser le moindre but, c'est quand même un petit événement puisque ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison, depuis la saison 2023-2024 pour Rodez. Et on pourrait également mettre en parallèle de tout ça que c'est sans votre gardien titulaire, Lionel Mpassi, qui est revenu de la CAN, qui a été opéré en début de semaine à la suite d'un problème d'un pépin physique. Est-ce qu'il faut y voir un parallèle, le fait que ce soit Sébastien Cibois qui enchaîne finalement ces belles performances ?
Non, je pense pas. Je pense que Lionel et Seb, c'est deux énormes gardiens. Donc je pense pas que, vu que Seb il est maintenant dans la cage et que Lio il est blessé, que ça a changé quelque chose. Je pense que les deux ils sont au même niveau. Les deux sont forts.
Et donc pour l'instant, ça marche plutôt bien pour Rodez, hein, puisqu'on rappelle, troisième clean sheet d'affilée. L'autre tendance, c'est cette maturité, on a envie de dire, dans la gestion du match. Temps faible, temps fort. Le début de la rencontre a été plutôt compliqué, avec quelques arrêts notamment importants de Sébastien Cibois. Puis en deuxième mi-temps, il y a ce pénalty de Bradley Langer arrêté par Diabaté. Rodez qui ne s'est pas déconcentré, alors qu'on a le sentiment que finalement, dans l'histoire pas si lointaine que ça, Rodez aurait pu, avec ses faits de jeu, se déconcentrer un peu plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Je pense qu'on a grandi, on a appris. Faut aussi souligner que le club, ça fait pas longtemps qu'il est en Ligue 2. Donc on apprend chaque jour et je pense qu'on a vraiment grandi.
Vous avez déclaré que c'est une famille. C'est quoi justement un club digne d'une famille comme Rodez ?
C'est un club, on est tous soudés et tu te sens bien dedans. Donc
L'intégration est facile.
Oui.
Tout se passe ensemble, c'est-à-dire qu'on pense presque davantage aux copains plutôt qu'à soi.
Après, dans le foot, c'est un peu aussi un métier où on pense à soi, mais ici, c'est plus tous ensemble, je trouve.
Il y a des moments, en tout cas charnières, on va revenir dans un match, et peut-être que vous êtes d'accord avec nous. Il y a ce geste déterminant après le penalty, le retour de Kylian Corredor sur un contre de Valenciennes. Un geste finalement de pur défenseur, alors qu'on rappelle que normalement c'est un buteur. C'est inné finalement de faire ce genre de geste, ou ça se travaille même à l'entraînement pour un attaquant?
Je pense aussi que c'est un peu inné. Kylian en connaît, il a un gros volume de jeu et on sait qu'il est capable de faire les courses. Donc là, il part en contre-attaque et il est bien revenu et c'est bien joué de sa part.
Ça aussi, c'est le signe d'une équipe qui vit les uns pour les autres, c'est-à-dire qu'on fait les efforts chacun pour les autres et on ne pense pas forcément à sa petite récupération personnelle.
Oui, voilà. Ça, c'est vraiment un signe qui montre qu'on est tous ensemble et qu'on ne lâchera pas.
Ok. Donc c'est bien évidemment pour Rodez, c'est bien pour l'état d'esprit. C'est ça qu'il faut souligner finalement dans cette rencontre. Si on devait, en plus du résultat, souligner quelque chose, c'est que Rodez a un état d'esprit formidable.
C'est ça.
Ok. Là où Rodez a peut-être été le plus convaincant que contre Bastia, c'est en tout cas dans le jeu. Il y a d'abord eu cette formidable percée de Andreas Ntonji dont la vitesse permet de centrer in extremis. C'est vrai que le ballon ne joue pas à grand-chose avant de sortir pour le but de Kylian Corredor. Le 1-0 donc avec cette petite déviation qui finit dans le but de Valenciennes. Il y a eu également pas mal de petites récupérations dans les pieds ou des interceptions après des enchaînements à une touche de balle. Et ça souvent ça fait du bien à Rodez puisque ça a permis de sortir rapidement d'une zone un peu en difficulté. Et c'est justement, finalement, on a envie de dire, un des axes forts de Rodez, cette fameuse récupération haute. Vous êtes d'accord avec nous?
Oui, je suis d'accord avec vous.
Ça s'explique par quoi?
C'est les consignes du coach, qui nous dit toujours de presser, de monter, de ne pas attendre. Donc, c'est ce qu'on fait
ça
sur le terrain.
Ça sent un coup où on peut récupérer un ballon?
Oui, ça sent. Ça se voit et ça s'anticipe.
On attend l'erreur technique de l'adversaire?
C'est ça.
Ou alors la mauvaise passe?
La mauvaise passe ou, comme vous avez dit, l'erreur technique.
Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit?
Oui.
On va s'intéresser à un rendez-vous évidemment privilégié dans ce club sans erreur avec notre invité Yanis Verdier. C'est un rendez-vous que vous ne connaissez pas puisque vous êtes tout nouveau dans ce studio.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
C'est le rendez-vous de la question à la con. Est-ce que vous avez reconnu la voix?
C'est le président.
Ouais, exactement, c'est la voix de votre président. Bon, Rodez qui est la deuxième meilleure attaque du championnat et avec une période de clean sheet en cours. Et du coup, on se pose cette question. Est-ce que finalement, Rodez est tout simplement injouable?
Franchement, on prend match après match. Donc,
c'est une réponse de footballeur. Mais est-ce que réellement, sur une question à la con, est-ce que Rodez est devenu injouable?
Je sais pas comment y répondre à cette question, franchement.
C'est vrai que c'est dur, parce qu'on peut pas non plus trop s'envoyer de fleurs, alors que pour l'instant, la série et la période est bonne.
Oui, c'est vrai.
Donc, il faudrait peut-être garder un minimum de confiance. Ça se joue dans le football. Et faire le travail sur le terrain, c'est ça?
C'est ça.
Ok. Bon, on le sait, il faut garder évidemment les pieds sur terre. Rodez, qui est en forme, certes, mais il reste encore quelques petits points à grappiller en vue du maintien. On va mettre 41, 42, 43 points pour ce maintien. Vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? Bon, 41, ça serait évidemment bien. Surtout que ce week-end, si vous gagnez, vous arriveriez justement à ce chiffre de 41. Le seul point noir de la soirée, donc on l'a dit, c'est probablement l'annonce de la blessure de Lionel Mpassi. Out pour le reste de la saison. Est-ce que vous vous doutiez qu'il avait une grosse blessure au moment de parler avec lui quand il est revenu de la CAN?
Quand j'ai parlé avec lui, moi, il m'avait dit qu'il avait mal au genou, mais je me doutais pas que ça allait être aussi grave. Non, franchement, on a été tous surpris qu'il allait se faire opérer.
Il a finalement un peu donné son corps à sa nation, à la République démocratique du Congo pour cette CAN. Rodez qui va du coup devoir chercher un autre gardien pour faire le nombre au cas où il arriverait un pépin à Sébastien Cibois ou à Enzo Crombez, comme l'a confirmé votre coach Didier Santini.
Ouais, on va faire la demande, après on verra. On en discutera tous ensemble. Tu fais la demande, parce que je crois qu'il n'y a qu'une fois par mois. Je crois que c'est le 28. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait fait la même demande l'année dernière, le 23 février, je crois, quand Seb s'était blessé ici et Lio s'était pris dans la bouche contre Nîmes. Donc on va faire la demande. Après, on l'aura, puis après, on verra ce qu'on fait.
Oui, qui va demander donc un joker médical, Didier Santini. C'est vrai que ce rôle de gardien de but... on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Et puis, malheureusement, il n'y en a qu'un sur le terrain. Donc, forcément, quand il se blesse, ça devient vite impactant et pénalisant pour une équipe.
C'est vrai. Moi, j'ai confiance en Enzo. Mais comme l'a dit le coach, il faut quand même, toujours au cas où, prévoir.
prévoir. Bah ouais, évidemment, ça serait mieux. L'adage, c'est prévenir, vaut mieux que guérir.
C'est ça.
On est d'accord que ça, c'est mieux. Effectivement. Yanis Verdi qui est avec nous dans le Club 100 heures. On va s'intéresser à vous un peu plus en détail. Vous êtes en train de retrouver du temps de jeu. Vous aviez connu une période un peu plus conséquente en début d'année, avant une période d'un peu moins bien, de mou, on va dire, avec notamment des entrées où vous revenez là sur les terrains. Une période donc où vous sortez du banc. Vous aviez joué donc en tout début de saison avec Didier Santini. Et il a plusieurs fois évoqué votre cas en expliquant que vous aviez réussi à vous remettre sur la même longueur d'onde que ce qu'il recherchait. Ça veut dire quoi, se remettre sur la même longueur d'onde?
Travailler comme il le veut. Être dans les principes et courir vers l'avant.
C'est quelque chose que vous aviez perdu en cours de saison?
Oui. J'avais perdu, je m'étais un peu perdu et je bafouillais un peu à l'entraînement.
Donc ça veut dire que c'était une petite période de doute? Vous pouvez confirmer un peu ça?
Oui, j'étais dans une petite période de doute. Après, c'était le début, c'était le temps de m'acclimater et tout ça. Voilà.
Didier Santini a évoqué également cette période quand on parle de vous. Écoutez.
Ça a été difficile par moments entre le mois de juillet et le mois de décembre parce qu'il pensait jouer. C'est un jeune joueur, jamais joué à ce niveau-là, ni peu, très peu en N1. Il a des qualités, mais à un moment, voilà, il voulait aller monter les marches trop vite. Et puis, je trouve qu'il a écouté. Au départ, il n'a pas tout entendu. Et puis, au fur et à mesure, il s'est posé des bonnes questions. Et il a changé de lui-même son comportement, ses attitudes, son travail. Et tous les jours, c'était de mieux en mieux. Donc après, comme je lui ai dit, il n'avait pas la chance. Non, ce n'est pas une chance, mais il jouait quand même dans une équipe qui aujourd'hui est une des deuxièmes meilleures attaques du championnat. Donc, il y a des joueurs offensifs qui ont beaucoup de qualité. Et qu'il fallait qu'il continue à apprendre et qu'il aurait sa chance, et qu'il devra la saisir. Et il le fait.
Dans la vie d'un footballeur, est-ce qu'on vit en permanence finalement avec ce doute?
Oui. Quand t'es footballeur, t'es jamais t'es jamais à l'abri d'un coéquipier qui est plus fort que toi ou quoi que ce soit.
Et comment il faut faire justement pour prendre la place d'un coéquipier en étant finalement un peu fair play quand même?
Je pense qu'il faut être juste meilleur que lui à l'entraînement et travailler dans les principes comme le veut le coach. Et ça va aller tout seul.
Écouter les conseils, les consignes?
Oui.
Ok. Et donc ça, c'est ce que vous avez réussi à faire dans le courant de l'année 2023, puisque ça paye dans ce début d'année 2024, où vous enchaînez, alors non pas les titularisations, mais les rentrées en fin de match, ça vous suffit pas?
Si, ça me suffit. On prend petit à petit et on verra plus tard.
Didier Santini, votre coach, qui a dit que vous aviez des qualités d'un joueur de futsal. Est-ce que vous avez eu des formations à ce niveau-là?
Non, peut-être pas des formations en futsal, mais vu que je n'ai pas été dans un centre de formation... J'ai joué beaucoup avec mes amis dehors, donc c'est vrai que je ne suis pas comme les autres joueurs.
Est-ce que ça veut dire que la pratique du football ne se fait pas que sur un terrain, c'est-à-dire qu'on peut également développer des caractéristiques d'un footballeur ailleurs?
Oui, on peut aussi apprendre dans la rue avec ses copains, ou même en foot en salle.
Ça dépend. Apprend quoi, justement, ces types de football, que ce soit le football dans la rue, le football en salle, ça apprend quoi en plus par rapport au football sur un vrai terrain?
T'es un peu moins bridé que dans les clubs et dans les centres de formation. Tu joues comme à l'instinct, un peu. Tu joues comme ce que tu penses, tu le fais.
Il peut y avoir de la frustration aussi, ça peut servir ensuite dans une carrière?
Oui.
Parce qu'on sait que des fois, dans le futsal ou dans le foot en extérieur, notamment le foot dans la rue, on joue contre des gens qui n'ont pas forcément le même niveau d'âge. Et donc forcément, des fois, on peut se sentir un petit peu lésé sur certaines situations. Ça, je suppose que ça rentre en jeu dans une formation de joueurs où on se dit, j'ai joué contre des enfants qui étaient plus âgés que moi, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient plus forts. Ça rentre dans une tête, ça?
Oui, ça rentre dans une tête, ça forge. Quand tu joues contre des personnes qui sont plus âgées que toi, t'apprends.
Et donc maintenant, ça vous sert?
Ça m'a servi, oui.
Évidemment, puisque vous êtes un des jeunes joueurs de l'effectif de Rodez, qui, du coup, on le rappelle, avec ce ratio minutes jouées-but, 62 minutes jouées en temps officiel, un but, un des meilleurs ratios de Ligue 2. On va s'intéresser à votre prochain adversaire. C'est Bordeaux qui se présente ce week-end sur la pelouse du Stade Paul Lignon.
Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Avec notre invité Yanis Verdi dans le Club 100 et Or, déjà apportant notre soutien à l'attaquant des Girondins, Albert Ellis, qui est dans un état grave après un violent choc à la tête survenu lors du match de Ligue 2 Bordeaux-Guingamp samedi soir dernier. Il a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été placé dans un coma artificiel. L'état de santé du joueur de 28 ans reste tout de même un peu préoccupant. Parlons du sportif maintenant, avec des Girondins qui vont mieux. Victoire à Guingamp, match nul à Amiens et victoire à Grenoble. Voilà les trois derniers matchs de Bordeaux qui ont enclenché finalement une nouvelle dynamique. Après, hors de leur base, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites depuis le début de la saison. Mais sur les 6 dernières journées, c'est la deuxième meilleure dynamique derrière Dunkerque. 13 points en 6 matchs. Dunkerque, c'est 16 points sur 18 possibles. Est-ce que ça vous fait peur, finalement, cette dynamique de Bordeaux un peu retrouvée ?
Non, ça ne nous fait pas peur. Nous, on va préparer ce match calmement. Et on va essayer de faire un bon match.
Quand on voit en tout cas ces chiffres-là, Dunkerque, Bordeaux, on voit bien que c'est un championnat un peu différent qui se met en place pour la deuxième partie de la saison. On sait qu'il faut prendre des points à tout prix pour se sauver un petit peu les fesses de la relégation. On rappelle qu'il y aura encore 4 descentes cette année. Est-ce que vous le constatez, ça, finalement, qu'il y a un changement de stratégie qui s'effectue dans les équipes ? On joue plus pour jouer et développer du beau jeu, on joue pour gagner cette deuxième phase de championnat ?
Oui, il y a beaucoup d'équipes qui ont changé de philosophie, qui joue pour gagner et pas pour faire du beau jeu. Donc oui, on le voit.
À Rodez aussi, ça a changé ?
Non, nous, on a toujours été pareil. On a toujours joué dans les principes du club.
Bordeaux, donc, une équipe qui cherche à remonter au plus vite hein, dans la Ligue 1, mais ça fonctionne pas forcément, en tout cas pas pour l'instant. Pourtant, les Marinés Blancs restent à 5 points du top 5. Leur arme principale, c'est Vipotnik, auteur de son 8e but de la saison face à Guingamp ce week-end. Le point faible, on pourrait dire que c'est le poste de gardien. Rafał Strazek, le Polonais, et Karl-Johan Johnson, qui sont en concurrence permanente. Pour l'instant, c'est le dernier hein, qui tient la corde de titulaire. Et côté titulaire, c'est Johan Barbé, qui a été le joueur le plus utilisé titulaire 25 fois sur les 26 matchs de Ligue 2 de cette saison. Bordeaux, donc, qui réussit mieux 2024 que 2023, car ils sont 4e dans l'exercice en Ligue 2, avec 13 points en 7 matchs. Donc, seul Dunkerque qui fait mieux. Rodez, sur la même période, c'est 11 points. Pas si loin que ça, finalement, en termes de dynamique.
Ouais, on est bien, on est bien.
On regarde les liens entre Rodez et Bordeaux. On a presque envie de dire que Rodez joue à chaque fois son maintien contre Bordeaux. Bon, évidemment, l'année dernière, ça s'est joué sur la pelouse de Bordeaux. Rodez, 38 points au moment où on se parle. Donc, avec 3 points de plus, ça ferait 41. Est-ce que ça sentirait quand même pas la bonne odeur du maintien à 41 points, Yanis ?
Ce serait mieux, c'est sûr.
Est-ce que c'est quand même l'objectif, ou est-ce que l'objectif, c'est d'aller voir toujours plus haut ? Pourquoi pas aller chercher les portes du top 5 ?
Non, nous, l'objectif, c'est d'abord le maintien et on prend match après match.
Bordeaux, de son côté, a 35 points et rêve de revenir, évidemment, sur les talons de Rodez. Bon, il faudra faire avec votre gardien éphémère du match aller, qui ne sera pas là. Giovanni Hague, qui avait dépanné hein, dans les buts au match aller, qui sera suspendu. Bon, on peut compter sur la présence de Sébastien Cibois, quand même.
Oui, bah oui.
Vous préférez Giovanni Hague ou Sébastien Cibois dans les buts ?
Non, on préfère Sébastien, quand même.
C'est une petite balle perdue pour Giovanni Hague, mais qui nous en voudra pas, parce que c'est pas son poste, évidemment. Mais il avait réussi quand même une belle performance au match aller. Je sais pas si vous en souveniez, mais... Il avait dépanné et il avait fait le job, comme on dit, notamment sur une prise de balle après un coup franc, ou alors sur une sortie aérienne sur un centre en toute fin de rencontre qui avait permis à Rodez de bien souffler. Dernière info, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'arbitre de la rencontre, vous savez qui c'est ?
C'est Clément Turpin, je crois.
Exactement, qui sera au sifflet donc, de cette rencontre entre Rodez et Bordeaux, habitué des rencontres de Ligue 1, voire même de Ligue des Champions, voire même, si on veut pousser le vice de Coupe du Monde, qui va officier pour la première fois de la saison en Ligue 2. Est-ce que finalement, d'avoir un arbitre aussi expérimenté, ça change quelque chose pour vous ?
Bon, pour nous, je pense pas que ça change quelque chose. Mais après, c'est sûr que si on a un meilleur arbitre, bah, tant mieux.
On a souvent parlé de l'arbitrage, d'un Rodez un peu lésé sur certaines situations. Est-ce que ça veut donc dire que là, avec un arbitre qui a le niveau Ligue 1, un arbitre qui a le niveau Coupe du Monde, on pourra pas critiquer l'arbitrage ?
Bah non, nous, en tout cas, dans l'équipe, on critique pas l'arbitrage. Après, c'est sûr que Clément Turpin...
Il y a des faits de jeu qui sont, on va dire, malheureux.
Bah, peut-être.
On sent que c'est un sujet toujours un peu compliqué, les arbitres. Alors, on veut pas les froisser, bien sûr. Quand ils font des erreurs, ça serait bien qu'ils viennent s'exprimer. C'est comme chaque joueur, hein. On invite évidemment les joueurs à s'exprimer à la fin de chaque rencontre quand ils font des erreurs. Bah, ça serait bien que ça arrive également pour les arbitres. D'ailleurs, concernant les arbitres, pour ou contre la sonorisation, la VAR qui va arriver l'année prochaine en Ligue 2 ?
Moi, pour.
Les deux ?
Oui.
À la fois la sonorisation et la VAR ?
La VAR surtout, après la sonorisation, après... Ouais.
Pas plus, quoi.
Pas plus, ouais.
Pas plus, ok. Prochaine rencontre, ce samedi donc, avec la rencontre à Polignon entre Rodez et Bordeaux. On aura l'occasion de s'y intéresser évidemment en détail, puisqu'on y sera sur place pour vous faire vivre cette rencontre. Coup d'envoi samedi à partir de 19h et prise d'antenne à partir de 18h50 avec Jean-Charles Vierlejeu pour cette grosse affiche de Ligue 2. Yanis Verdier qui était avec nous, merci beaucoup. On va vous libérer. Passez une très très belle semaine et du coup, on se retrouve samedi sur les terrains.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Totem, le club sang et or.